Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit.
Je voudrais lire avec vous dans Actes chapitre 5. J'aimerais que nous lisions dans Actes chapitre 5, verset 27. Je vais lire, je sais que vous n'avez pas la possibilité de lire. Donc, deux textes concernant les chrétiens et les autorités. L'exemple des Actes des apôtres. Donc, Actes chapitre 5, verset 27 à 33. Il s'est dit que quand ils l'eurent amené, il les fit comparaître devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea, ne vous avions-nous pas donné injonction formelle de ne plus enseigner en ce nom-là, dit-il. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous êtes décidés à faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre répondit, ainsi que les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Le Dieu de nos pères a réveillé Jésus, que vous avez éliminé en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme pionnier et sauveur, pour donner à Israël un changement radical et le pardon des péchés. » Nous, nous sommes témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Exaspérés, ceux qui les écoutaient étaient décidés à le supprimer. Un deuxième texte, toujours dans les Actes des Apôtres, au chapitre 22 et au verset 30. Actes 22, verset 30. Le lendemain, souhaitant savoir au juste de quoi les Juifs l'accusaient, il le fit délier et donna l'ordre au grand prêtre et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il fit descendre Paul et le plaça devant eux. Fixant le Sanhédrin, Paul dit, « Mes frères, quant à moi, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. » Le grand prêtre Ananias donna à ceux qui étaient près de lui l'ordre de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « C'est Dieu qui va te frapper, muraille blanchie. Toi, tu es assis là pour me juger selon la loi, et contre la loi, tu ordonnes qu'on me frappe. » Ceux qui étaient là dirent, « Tu insultes le grand prêtre de Dieu. » Paul répondit, « Je ne savais pas, mes frères, que c'était le grand prêtre. En effet, il est écrit, tu ne diras pas de mal d'un chef de ton peuple. » Voilà les deux lectures que je vous propose, avec l'intention, ce matin, de proposer donc trois nouveaux points. Je vous rappelle qu'hier, nous avons examiné le sujet dans son contexte, chrétien et autorité, l'exemple des Actes des apôtres. Nous avons parlé ensemble de la tentation de trembler devant le politique, de le courtiser ou de le dominer. Ce matin, j'aimerais donc voir avec vous trois nouveaux points. Je les intitule « S'intéresser au politique qui doit servir Dieu pour le bien de tous ». Pardon. Deuxième point, la question du motif de conscience. Et troisième point, le politique doit rester une réalité seconde. Premier point, s'intéresser aux politiques qui doit servir Dieu pour le bien de tous. Je pense qu'on peut remarquer que Luc s'intéresse beaucoup aux situations politiques. Un spécialiste que j'ai déjà cité, Cassidy, estime même qu'on pourrait présenter Luc comme, je cite Cassidy en tout cas, comme un historien d'empire. Il va insister sur disons, la véracité de ce que Luc rapporte, et s'opposer, il est vrai, je ne dis pas que tous les spécialistes des Actes des Apôtres seraient prêts à signer ce que Cassidy est en train de dire là, des spécialistes comme Henschen, par exemple, estimaient que l'auteur du livre des Actes était un narrateur fascinant, mais qu'on ne peut pas le considérer comme un historien au sens moderne du terme. Je n'ai pas le temps d'expliquer d'où vient une telle différence d'appréciation, mais en tout cas pas sur des éléments historiques tout à fait précis. Donc, je reviens à Cassidy pour dire que cet auteur dit que, en ce qui concerne les situations, les personnes ou les événements susceptibles d'être connus par des lecteurs informés, donc Cassidy Luc fait une présentation tout à fait exacte. Je rappelle que dans le prologue de l'évangile de Luc, cette introduction à la double œuvre de Luc, comme on dit habituellement, Luc 1:3 en particulier, Luc dit qu'il s'est informé exactement de tout depuis les origines. Il a donc le projet de faire un récit ordonné et d'informer de manière précise ses lecteurs. Nous avons vu hier peut-être ses lecteurs comme des officiels romains, des lecteurs en tout cas bien informés en ce qui concerne les situations, en ce qui concerne les événements de l'Empire romain. Un historien de l'Empire romain, Shervin White, et c'est pour sa part intéressé, toujours dans ce domaine, s'est intéressé aux procédures judiciaires décrites dans les Actes, et je le cite pour dire que il trouvait les Actes si techniquement corrects que les spécialistes travaillant sur cette période de l'histoire romaine les ont souvent utilisés comme la meilleure illustration de juridiction provinciale à cette période particulière. Je ne dis pas qu'il ne reste pas certaines questions qui sont objets de débat, par exemple la question du recensement avec le personnage de Quirinius. Les spécialistes discutent, mais on est assez mal renseigné sur, disons, la succession des gouverneurs de Syrie à cette époque. Le grand spécialiste évangélique Howard Marshall dit que Luc fait un travail historique d'une valeur considérable. Il donne une description exacte de la société romaine du 1er siècle et avec grand soin que les Actes rapportent les faits. Donc, une insistance, c'est la précision de Luc, son intérêt donc pour les questions d'organisation politique, qui se voit en particulier dans la précision de Luc en ce qui concerne les termes techniques à propos de l'organisation politique. C'était très compliqué en fait de ne pas se tromper dans ce domaine. Dans l'île de Chypre, il y a un proconsul, acte 13, verset 7. À Éphèse, il y a un secrétaire et des asiarques. Je suis dans acte 19, verset 31. À Thessalonique, il y a des polytarques. Acte 17, verset 6. Dans l'île de Malte, il y a le premier homme de l'île, donc l'autorité politique, 28-7, et il est question ailleurs du chiliarque Claudius Lysias dans 24-22. Donc, des termes techniques très nombreux, très différents, et c'était particulièrement difficile d'être précis dans de telles circonstances, en se souvenant que dans l'Empire romain de l'époque, il n'y a pas des bibliothèques comme à notre époque, et donc quelqu'un a pu dire, à moins d'une connaissance de première main, il était pratiquement impossible d'atteindre un tel degré de précision. Précision également en ce qui concerne Galion, dont j'ai parlé hier. Galion, dont il est question sur une pierre qu'on a trouvée, la pierre de Delphes, découverte en 1905. J'ai dit tout à l'heure que la mention de ce frère, Galion était frère du philosophe Sénèque, précepteur de Néron. On a des gens qui sont dans l'environnement de l'empereur lui-même, et dans sur tous ces points, Luc se montre tout à fait précis. Précis donc, Luc est intéressé par les questions de politique. Je rappelle que je développe le point s'intéresser aux politiques qui doit servir Dieu pour le bien de tous. Je pense qu'on peut illustrer cet intérêt de Luc pour le politique, toujours avec la méthode de la critique de la rédaction que je mentionnais hier. Par exemple, en allant chercher dans l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 7 et suivant, la mention concernant le roi Hérode, dans Marc chapitre 6, verset 14, il est question donc du roi Hérode, un terme assez vague en fait, mais Luc devient plus précis et dit qu'il s'agit du tétrarque, d'Hérode le tétrarque. Luc est précis et cette comparaison avec la méthode, la critique de la rédaction attire l'attention sur ce fait que Luc sait donc être précis dans ce domaine de la politique. Nous savons aussi combien Luc utilise et rapporte les mentions où Paul utilise son privilège de citoyen romain. Je rappelle acte 22, 25. On pourrait citer quelques textes en rapport avec cet intérêt de Luc pour la politique. Par exemple, quand Paul parle à Félix, dans acte 24, verset 10, il dit qu'il est heureux de présenter sa défense et que c'est avec confiance qu'il va parler en raison du fait que Félix est juge de cette nation et juge en Israël et juge à Césarée depuis des années. Confiance, je souligne ce mot d'acte 24, 10. Paul ne courtise pas Félix comme le fait l'avocat Tertulle. Je vous renvoie à ce texte donc d'acte 24 où Tertulle va dire voilà, tu nous as fait vivre une paix profonde, tes remarques, tes réformes ont apporté par ta prévoyance, tu as fait donc des réformes remarquables et tout ça. Bref, excusez l'expression, il leur passe un petit peu de pommade. Il passe un petit peu de pommade à Félix. Ce n'est pas le cas de Paul, mais Paul quand même exprime cette confiance. C'est avec confiance que je le fais. Et je crois que cette expression de Paul, citée donc dans acte 24, peut un petit peu, disons, illustrer ce que je suis en train de dire, une certaine confiance dans le politique, dans le sens où, si le politique reste dans ses limites, alors il va intervenir, il va servir Dieu pour le bien commun, pour le bien de tous. On pourrait citer acte 25, verset 16 aussi, qui va dans le même sens, où il est dit que les Romains n'ont pas l'habitude de livrer un homme avant que l'accusé soit confronté à ses accusateurs, et qu'il ait eu l'occasion de se défendre des charges qui pèsent sur lui. Là encore, une appréciation relativement positive qui nous permet, avec ce point, de rejoindre ce que Hans Conzelmann pouvait dire. Il exagérait, je l'ai dit hier, mais il est vrai que les actes des apôtres présente donc une certaine, je répète, une certaine appréciation positive du politique. Dieu n'appelle pas les chrétiens à trouver le salut hors du monde, et la politique qui amène, dit un autre passage du Nouveau Testament, qui peut amener une vie paisible, et cela est propice à l'avancement du royaume de Dieu. Nous verrons que ce n'est donc pas par calcul, mais c'est par conviction intérieure concernant les valeurs positives que Dieu a voulu mettre dans chacune des institutions que les hommes se sont données. Donc, il faut insister sur ces valeurs positives que Dieu a voulu mettre dans chacune des institutions que les hommes se sont données pour organiser leur vie sociale. C'est une manière d'introduire mon deuxième point, par motif de conscience. Par motif de conscience. Cette expression correspond évidemment au grand texte concernant les relations entre le politique et le chrétien évangélique, on pourrait dire. Je parle de Romains chapitre 13. Mais je crois que Romains chapitre 13 doit être médité, pas seulement, on ne va pas seulement garder l'idée « il faut être soumis aux autorités », c'est vrai, mais je crois que Romains 13 nous appelle à, enfin, il est nécessaire d'examiner Romains 13 de manière un peu plus approfondie que cela, et cet examen plus approfondi va nous permettre d'expliquer, je crois, certaines attitudes, en particulier dans les Actes des Apôtres, où on peut être un peu surpris par les réactions des apôtres, Paul, voire dans l'évangile de Luc, de Jésus lui-même. Donc, surpris par certaines réactions des apôtres de l'apôtre Paul, qui insiste sur la soumission, mais est-ce qu'il est tellement soumis? On est un peu surpris par certaines de ses réactions. J'ai dit évangile de Luc, Jésus lui-même, ou Paul, je cite d'abord évangile de Luc, chapitre 13, verset 31, où on vient dire à Jésus que Hérode désire le tuer. Et Jésus répond, je chasse les démons, je fais des guérisons durant 2 jours. Allez le dire à qui? À ce renard. Bon, est-ce que c'est la soumission? En tout cas, renard, c'est pas un compliment. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Les spécialistes disent peut-être... renard, comme dans le français, si on se réfère au grec, fait allusion à la ruse. Ou si on se réfère à la littérature juive, on pense à un personnage agressif, mais qui est pas dangereux. C'est pas un lion, quoi. Et donc, il aboie beaucoup et tout, ou je sais pas comment on peut dire, mais quelque chose comme ça, vous voyez. Mais en tout cas, comme je t'ai dit, c'est pas un compliment. Et puis, Actes chapitre 23, verset 2, nous l'avons lu, Paul est donc convoqué pour s'expliquer, et il va s'expliquer avec une certaine hardiesse. Il est en train de dire que c'est avec une pleine bonne conscience qu'il s'est comporté, et je suppose que cette hardiesse-là a exaspéré le grand prêtre, et le grand prêtre demande qu'on frappe Paul sur cette bouche qui dit des choses trop arrogantes. Et à ce moment-là, Paul réagit très énergiquement en disant quelque chose que les gens qui sont là, certains, prennent pratiquement pour une insulte, puisqu'il dit « muraille blanchie ». Tu es assis là pour me juger, et contre la loi, tu ordonnes qu'on me frappe. Muraille blanchie, je ne sais pas trop si c'était une insulte. Je ne sais pas. C'est comme l'un de mes enfants. Vous savez, dans la maison, on ne disait pas de gros mots. Et un de mes enfants, il était un petit peu gêné par ça, parce qu'il voulait dire un gros mot à son petit copain à côté. Et il lui a dit « Oasis et Casimir ». Alors le petit copain a bien compris qu'il voulait l'insulter, quoi. Et il est venu, il a dit « Mais il m'a insulté, votre fils ». Il a dit « Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Il m'a dit « Oasis et Casimir ». Il a dit « Mais c'est pas une insulte, ça ». Je passe. Alors, je sais pas, muraille blanchie. Mais en tout cas, ça voulait pas être un compliment. Je crois que on est surpris par certaines réactions face aux autorités ou, en tout cas, Paul, Jésus lui-même, n'ont pas une attitude de totale soumission. Le texte qui illustre cela par excellence, c'est Acte 5, verset 27, où, face aux autorités juives, nous avons lu ce passage. Alors, Pierre, les apôtres, et Pierre en particulier, sont donc convoqués par ces autorités juives, et ces autorités disent, mais voilà, nous vous avions donné une instruction formelle de ne plus enseigner l'Évangile. Et pourtant, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et le texte biblique des Actes, chapitre 5, versets 27 à 33, donc dans ce passage, ce texte dit, alors Pierre et les apôtres lui dirent, il faut, j'insiste sur ce il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans certaines circonstances, les actes recommandent indirectement, j'aurais presque envie de dire, de désobéir aux autorités. Ces autorités qui ont dit, mais vous ne devez pas prêcher l'Évangile. Et Pierre dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comment comprendre cette sorte de révolte face à Romains 13 et face à l'attitude des chrétiens, des apôtres, dans les actes des apôtres qui sont généralement soumis aux autorités? Je l'ai dit, je pense qu'un examen plus sérieux de l'enseignement du Nouveau Testament peut nous aider. Et puisqu'il est question de Romains 13, insistons sur quelques versets de Romains 13. 4 par exemple, Romains 13 verset 4. Il s'est dit, l'État est au service de Dieu pour ton bien. Il fait justice contre celui qui pratique le mal. Et Romains 13, 5 explique que le chrétien va se soumettre non pour échapper aux conséquences mauvaises de ses actes, mais par motif de conscience. Par motif de conscience. On ne se soumet pas parce que le détenteur du pouvoir un charisme particulier, comme il semble que c'était le cas, qu'on insistait dans ce sens dans l'hellénisme, mais on se soumet à des autorités politiques qui ne sont pas idéales. C'est pas les autorités telles qu'on les aurait forcément souhaitées. Je vous rappelle que l'empereur, dans une certaine période couverte par les actes des apôtres et Néron lui-même, triste personnage, s'il en est, vous le savez. Mais ce que l'Écriture nous dit, c'est que les autorités ont reçu, même païennes, ont reçu leur mandat, ont reçu leur dignité de Dieu qui les a instituées. Et d'autres passages de l'Écriture, songez à Tite 3.1, nous demande d'être soumis aux magistrats, aux autorités. C'est un enseignement, clair du Nouveau Testament, d'être soumis aux autorités, aux magistrats, de pratiquer l'obéissance et de prier, 1 Timothée 2, 1 à 7, de prier pour les autorités. Vous le savez, Paul demande que l'on fasse des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, en particulier pour les rois, les dépositaires de l'autorité, afin, dit 1 Timothée 2, de mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Bref, par motif de conscience, le chrétien va chercher, on dirait, le bien de la ville. Je cite Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville. Il s'agissait de Babylone pourtant. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Je crois que la lumière de Jérémie, chapitre 29, verset 7, est intéressante pour notre sujet. Je reviens au problème de, disons, certaines réactions relativement, entre guillemets, apparemment insoumises, pour dire que ce détour que je viens de faire par Romains 13, je crois, peut nous aider dans le cas, disons, de l'autorité injuste. Je pense que Romains 13 ne pose pas vraiment ce problème de l'autorité injuste. Un auteur, Cipriani, dit Paul lui-même n'aurait soutenu aucune autorité qui se serait opposée ouvertement au bien commun dans ses diverses expressions, à commencer par la liberté religieuse. C'est justement, je crois, parce que Romains 13, qui demande la soumission, la demande par motif de conscience, que dans certaines situations, de la même manière, pour le même motif de conscience, alors le chrétien va être amené à avoir, on pourrait dire, un comportement tout à fait critique face aux actions de l'autorité, du gouverneur, ou du chef du Sanhédrin, du grand prêtre. Donc, on comprend mieux les attitudes apparemment insoumises de Paul, de Pierre et de Jésus lui-même. Le motif de conscience qui pousse à se soumettre à une autorité juste conduit à lui résister lorsque cette autorité sort de sa sphère et veut interdire, par exemple, de proclamer l'Évangile. Et on retrouve, bien sûr, Actes chapitre 5, « Il faut alors obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Je pense donc que, en fait, Romains 13 en particulier, appelle une étude peut-être plus attentive. Il ne suffit pas de dire il faut se soumettre aux autorités, c'est très important, et je ne le conteste nullement, évidemment, mais à la réflexion, le Nouveau Testament, Romains 13, mais j'inclus aussi les Actes dans ce fait, le Nouveau Testament a une attitude bien plus originale que celle que les exégètes pensent trouver ou on trouve, ou les simples lecteurs du Nouveau Testament, je parle d'une lecture superficielle, pensent trouver, et j'insiste sur donc le motif de conscience. Le motif de conscience. Je crois que les Actes nous aident à mieux lire Romains 13. Et le même Paul, qui demande la soumission à certains moments, est en mesure d'avoir une attitude pas du tout effacée. Et même quand il dit « muraille blanchie », Jésus qui dit « ce renard », c'est une attitude qui correspond à ce comportement critique dont je parle, qu'il me semble important de souligner. Je passe à mon troisième point, ne pas diviniser le politique, ne pas diviniser le politique. L'homme doit rester à sa place, le politique aussi. J'ai insisté hier sur ce qui a donné à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. L'enseignement vient de Jésus lui-même. Le chrétien n'agit pas par une sorte de mépris pour le monde, à la manière des cyniques ou des sceptiques, mais il est amené à relativiser le politique. À relativiser le politique, dit un auteur, Cassidy, que je cite, relativiser le politique. L'État ou le politique n'est pas la chose ultime. Il y a la réalité ultime qui la transcende, c'est le royaume de Dieu. Le politique est une activité humaine importante qui peut favoriser ou faire obstacle au royaume de Dieu, mais sans jamais se substituer à ce royaume de Dieu. Le chrétien ne s'imagine pas que des moyens politiques vont faire venir le grand soir qui change le cœur de l'homme. Luc nous apprend que ce qui change le cœur de l'homme, ce n'est pas le politique ou la politique, c'est l'Évangile, c'est l'Esprit de Dieu. Je suis frappé par le fait que, après la Pentecôte, juste après la Pentecôte, acte 2, alors les premiers chrétiens ont une vie de communion magnifique, disons, une vie de communion telle qu'ils sont un cœur, une âme. L'Esprit de Dieu a agi, est venu parmi eux, et leur comportement, leur cœur a été changé à un point tel que les premiers socialistes ont été impressionnés par cet état presque idéal. Les Actes des Apôtres nous montrent même à cette époque, des éléments qui ne sont pas tout à fait parfaits. Mais malgré tout, on a un cœur changé et les Actes des Apôtres insistent là-dessus. Le Nouveau Testament n'enseigne pas à aborder les situations politiques directement pour les transformer, mais le Nouveau Testament, les Actes en particulier, nous appelle à un changement du cœur de l'homme, en sorte que ensuite les structures sociales sont changées. On peut trouver à cela une illustration qui est tout à fait parlante dans la petite lettre à Philémon, où Onésime, donc cet esclave fugitif, va revenir, se réconcilier avec son maître Philémon, donc, et les exhortations de Paul dans la lettre à Philémon illustrent tout à fait très bien cela, dans le cas d'un problème social. J'extrapole peut-être par rapport aux politiques, mais voilà que Philémon est appelé à considérer son ancien esclave. Dans l'Empire romain, les esclaves, c'était des machines à voix humaine. On a des textes qui disent, mais une vieille vache, c'est mieux qu'un vieil esclave. La vieille vache, on peut la manger. Et le vieil esclave, on peut plus rien en faire. Donc, c'est dire que l'esclave, c'était rien. Mais voilà quel changement de cœur par l'Évangile, en sorte, je cite un ou deux versets de l'Épître à Philémon, voilà maintenant que cet Onésime, cet esclave fugitif, est appelé à être Philémon, doit se comporter à son égard comme à l'égard d'un frère bien-aimé. Je cite Philémon verset 15 et plus loin, verset 17, Onésime doit être accueilli comme Paul l'aurait été lui-même. Accueille-le comme moi-même. C'est dire l'importance de ce changement de cœur, de cette intériorité. Et ça, le politique ne peut pas le faire. Et donc, je ne peux pas diviniser le politique, je ne peux pas le mettre en premier, mais je ne peux que le situer à une place seconde ou troisième, je ne sais pas comment dire. Les chrétiens deviennent des serviteurs de la justice parce que Dieu a commencé son œuvre à partir du cœur. Et donc, ce cœur, une fois changé, va entraîner un changement dans les rapports avec les autres hommes et ensuite un changement dans les structures sociales. Ce n'est pas surprenant que dans l'Empire romain, pas tout de suite, il est vrai, mais l'esclavage, par exemple, puisque je parlais de ce point, a été abandonné. Je vais bientôt arriver à ma conclusion, mais dernier petit développement. Donc, ne pas diviniser le politique, parce que l'objectif des actes, je n'abandonne pas le livre des actes qui me sert de support, le livre des actes nous montre que l'objectif essentiel, c'est évangéliser. Acte 1-8, les chrétiens ont reçu la puissance du Saint-Esprit doivent être les témoins du ressuscité jusqu'aux extrémités de la terre. Le chrétien ne méprise pas du tout la cité terrestre dans laquelle il se trouve, mais je vais dire tout à l'heure que l'importance pour lui est donc la cité céleste. Il va, j'ai envie de dire, très bien se comporter et avoir un rôle tout à fait positif dans la cité terrestre, mais il sait que l'important pour lui est la cité céleste et le fait que le royaume de Dieu atteigne de nouveaux cœurs, que l'évangélisation avance, que le royaume de Dieu se propage et que donc il a, lui chrétien évangélique, il considère comme très important certaines dispositions données par le politique, en particulier comme une récente position de l'Alliance évangélique le soulignait, l'importance d'une place, il donne une place centrale aux libertés de pensée, de conscience, de religion et d'expression. Des vérités qui correspondent aux droits de l'homme et du citoyen, 1789, ou Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Liberté de changer de conviction ou de religion, et insistance sur le fait que aucune idéologie ou religion ne prétende dominer la vie sociale ou politique d'un pays, et également, je crois, je fais allusion à la hardiesse dont je parlais tout à l'heure, je fais allusion à l'esprit critique dont je parlais tout à l'heure, l'importance à récuser, je cite, la prise de position récente de l'Alliance évangélique, récuser toute prétention à enfermer le religieux dans le domaine privé. Les chrétiens, des Actes des Apôtres en particulier, n'ont pas du tout accepté ça. Quand on leur a reproché de remplir Jérusalem de leur enseignement, ils ont dit il faut mieux, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je parlais tout à l'heure de cité terrestre, de cité céleste. Oscar Kuhlmann parle du déjà et du pas encore, qui correspond à une notion familière pour les théologiens. Il parle aussi d'une sorte de dualisme temporel. Le chrétien, en fait, est à l'aise dans la société, même dans une société comme celle de l'Empire romain, qui était donc dirigée par des autorités païennes, mais le chrétien l'est parce que il sait qu'il est en marche. L'Épître aux Hébreux dit cela, mais je crois que les Actes des Apôtres nous donnent une illustration, comment nous montre comment concrètement les chrétiens ont vécu cela. Donc, la cité céleste, je songe à Hébreux chapitre 11, verset 16, la cité qui a de solides fondements, Hébreux chapitre 11, verset 10, la cité permanente, Hébreux chapitre 13, verset 14, la cité qui est à venir. Donc, je pense que, comme je viens de le dire, Luc nous montre comment, dans les situations concrètes, comme je le disais hier, et c'est là l'intérêt des Actes des Apôtres, comment les apôtres, en particulier les leaders de cette Église des premiers siècles, ont vécu à la fois la soumission, à la fois, disons, un accueil relativement positif pour le politique, mais également l'esprit critique et également la perspective qu'ils avaient et le fait que le chrétien ne peut pas diviniser le politique. J'en arrive à mes conclusions qui vont reprendre ce que je viens de dire, résumer, lier la gerbe si vous voulez. Luc s'intéresse donc aux autorités politiques. Je crois qu'il en fait une présentation précise. Il manifeste une appréciation positive du politique. Le chrétien ne craint pas de se soumettre aux autorités, même païennes. Il le fait, deuxième pensée importante, il le fait par motif de conscience. Et ce motif de conscience, pas la crainte, je rappelle Romains 13 qui oppose, certains le font par crainte, mais le chrétien le fait par motif de conscience. Ce motif de conscience joue un rôle important dans l'obéissance du chrétien aux autorités. Ces autorités sont conçues comme instituées par Dieu. Si elles restent dans leurs limites, le chrétien va leur apporter soumission et soutien. Il prie pour elles et il cherche le bien de la ville. Mais la même conscience qui conduit à exiger, qui conduit à demander la soumission, conduit également, peut conduire à s'opposer à cette autorité si cette autorité perd de vue le fait qu'elle doit intervenir, que son but, son rôle, c'est pour le bien commun, comme je le disais tout à l'heure. C'est pour le bien commun. Elle doit rester dans ses limites. Dans ses limites. À César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Sinon, alors, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est dans les Actes. Et je crois que Acte 5, 29, donc, est un élément important. Le politique ne doit pas être divinisé, je l'ai dit. Ce qui change le cœur de l'homme, c'est donc l'Évangile et le Saint-Esprit. C'est que ce cœur de l'homme soit changé par le Saint-Esprit. Et alors, le croyant est en marche, non vers la cité terrestre, mais vers la cité céleste. Je termine avec quelques remarques dépassant le livre des Actes, mais qui peut-être nous interpelle, exhortation, si vous voulez, finale, pour dire que je me souviens de mon professeur à la fac de Vaux-sur-Seine, l'histoire de l'Église, qui disait que à l'époque des Camisards, avant donc cette révolte des Camisards, le protestantisme était mou, était trop soumis. Romains 13, basique, faut être soumis aux autorités et tout ça. Et le protestantisme d'alors se trouvait dans une sorte donc de maladie
parce que il était dans cette situation, je ne sais pas qu'on peut dire, molle. Et j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, ce matin, que j'espère qu'il n'en est pas ainsi, et j'ai presque envie de vous exhorter en vous disant, et si nous changions de mental? Je veux citer un article récent, pas pour dire que je suis totalement d'accord avec lui, mais la secte qui veut gagner le monde. Et nous, nous pensons, surtout nous, évangéliques de France, ah, nous sommes tellement petits. Notre église est tellement petite, mais bon, c'est normal, hein, parce que c'est le petit troupeau. C'est normal, et puis les autorités politiques sont là, alors voilà, on va se recroqueviller dans sa coquille. Mes frères et sœurs, nous sommes, disent les spécialistes, 400 ou 500 millions dans le monde. 400, 500 millions dans le monde. Est-ce que nous allons changer de mental? Paul n'avait pas cette sorte de mental, Jésus lui-même, cette sorte de mental qui faisait, qui lui donnait un mental de ghetto. Pourtant, ils n'étaient pas nombreux à l'époque. Mais je vous invite, je vous exhorte dans ce sens-là, pour que nous disions, nous avons à jouer un rôle. Je parlais hier de ce rôle catéchontique, ce rôle de, comment dire, de ferment qui s'oppose à ce qui est mauvais dans la société ambiante. Je crois que cela, c'est notre rôle. Et surtout, je crois, nous avons à faire en sorte que le royaume de Dieu avance. Et je vous mets donc devant ce défi, mais j'ai envie de vous laisser ce message qui va un peu au-delà de ce que j'ai vu, nous avons vu ensemble dans les Actes des Apôtres, encore que je pense que cette méditation des Actes des Apôtres nous invite à cela. Mes frères, mes sœurs, changeons de mental. Parce que si nous changeons de mental, je crois que cela va entraîner des choses. Nos églises méritent d'avancer plus que cela. Merci à Dieu pour les églises qui avancent, mais je crois que ça dépend beaucoup de notre manière de voir. Je vous remercie de votre attention et surtout, je vous en prie, n'oubliez pas ma dernière exhortation de ce matin.